On passe encore. Ça fonctionne? Vous m'entendez bien? Excellent. Mon nom est Mathieu Fortin. La troisième ou quatrième fois que j'ai le privilège énorme de vous adresser la parole pour la prédication. Et puis, j'ai l'expérience maintenant du premier culte. Et puis, je vois que j'ai besoin de tout le temps possible. Alors, je me lance tout de suite. Il y a 2 ans, j'étais un petit peu perdu dans ma tête. J'avais tellement de choses qui se passaient. On était en train de construire une maison. Ceux qui ont déjà eu cette expérience-là de la construction d'une maison, il y a tellement de choix, de problèmes à régler de toutes sortes. C'était un moment particulièrement chargé à mon travail. J'avais beaucoup de projets, de deadlines, de choses qui se passaient. Tout arrivait en même temps. Et puis, on était dans le processus d'adopter notre fils José Matteo. Et puis, c'était un 26 octobre. J'avais dormi d'une manière très légère. C'était pas vraiment un sommeil très récupérateur parce que pendant toute la nuit, je me ressassais toutes les choses que je devais faire. Et puis, le sommeil était vraiment pas très profond. Et puis, mon téléphone cellulaire sonne. Et puis, je me réveille avec le son de mon téléphone cellulaire. Et puis, en me réveillant, je regarde un petit peu ce qui m'entourait. Je vois des boîtes, je vois des valises, je vois. Puis, j'y arrive même pas à me rappeler où je suis. Ça fait 4 mois qu'on est sans domicile fixe, qu'on est SDF. On était chez les Farley pendant 2 mois. On est allé au Honduras pour le premier voyage de 2 voyages pour adopter notre fils José Matteo. Je travaille en Abitibi. Souvent, je vais aller 1 semaine par mois en Abitibi. Alors, tant qu'à aller là-bas, j'avais amené toute la famille. On était allé dans ma belle famille à Trois-Rivières. On s'était promené, puis là, on était rendu dans un logement à Cantley. On attendait de pouvoir rentrer dans notre maison. Alors, c'était tout arrivé en même temps. Puis, mon téléphone cellulaire sonne. Je ne sais même pas je suis où. Je me prends quelques secondes. Je regarde l'afficheur. C'est ma belle-mère. Et puis là, je me dis, c'est vrai, elle m'a laissé un message hier, puis avant-hier, puis je ne l'ai pas rappelé. J'étais comme en mode survie. Je rappelais juste les téléphones, les messages extrêmement importants. Et puis, pas pour vous dire que le message de ma belle-mère n'était pas important, mais c'est parce que ma belle-mère, elle voulait me souhaiter bonne fête. Et puis, pour moi, se faire souhaiter bonne fête, rendu là avec tous les projets, les affaires, j'ai dit, OK, bien, elle a pensé à moi, souhaiter bonne fête, c'est bon. Mais là, elle voulait absolument me souhaiter bonne fête de vive voix. Alors là, finalement, je réponds, puis c'est ma belle-mère, elle me souhaite bonne fête. Et puis là, elle me dit, Mathieu, tu as 33 ans. Le 24 octobre, 2 jours avant, j'ai eu 33 ans. Et puis là, elle me dit, tu sais, c'est l'âge du Christ. Ma belle-mère est non-croyante. Ma belle-mère est non-croyante. Et puis, elle me dit, tu sais, c'est l'âge du Christ. C'est l'âge de l'accomplissement. Tu vas, et puis là, elle se met à prophétiser. Elle dit, tu vas accomplir de grandes choses. Et puis, effectivement, à 33 ans, c'est l'âge où Jésus est mort sur la croix, on l'a crucifié, et puis c'est effectivement un grand accomplissement parce qu'il a vaincu le péché, il nous a libérés, et puis on peut être entré dans la famille de Dieu grâce à ce grand accomplissement. Ce matin, j'aimerais regarder, je dois vous dire quelque chose avant de continuer. En regardant avec 2 ans de recul, en regardant ce moment tumultueux dans ma vie, je peux vous dire que c'est plutôt Dieu qui a accompli des grandes choses pendant que moi, je le regardais faire, mais j'étais stressé, comme ça se peut pas. Et là, j'ai eu l'apparition de quelques cheveux blancs durant ces moments extrêmement stressés. Et puis Dieu a opéré des choses extraordinaires que je suis extrêmement reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille, il y a 2 ans passés dans ce moment extrêmement tumultueux. Et puis ce matin, j'aimerais regarder avec vous comment Dieu nous a adoptés par l'accomplissement de ce que Christ a fait à la croix lorsque Christ avait effectivement 33 ans de vie terrestre. Sans plus tarder, allons dans la prière. Mais avant, une petite gorgée d'eau. Oui, bon Père éternel, nous aimerions nous pencher ce matin sur l'adoption de nous dans la famille de Dieu par l'œuvre de Christ. Père, aide-nous à comprendre, à saisir, à appliquer ces vérités fondamentales de l'Évangile. Père, sois avec moi ce matin, sois avec ma voix qui est fatiguée, ma gorge qui est sèche, sois avec les cœurs de toutes les personnes ici présentes, que tu puisses travailler et œuvrer dans les cœurs et que ta parole puisse faire un effet. Merci de nous accompagner ce matin, Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de tourner dans Galates, au chapitre 4, au verset 4 à 8. Et on va regarder tout de suite après un deuxième texte dans Romains. Alors, je vais vous demander de garder votre doigt dans Galates. Si en cherchant Galates, vous trouvez Romains, mettez votre doigt tout de suite. Ça va vous sauver du temps. Alors, le temps avance rapidement, je vais me lancer avec la lecture de Galates au chapitre 4, au verset 4, et on va lire jusqu'à 8. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier de Dieu par Christ. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Alors, c'est la fin de le 4e chapitre de Galates au verset 8. Et puis, on va continuer notre lecture dans Romains au chapitre 8 au verset 14. Et on va lire jusqu'au verset 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, et pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Je me suis basé pour la prédication de ce matin sur l'ouvrage de M. John Piper. L'adoption, le cœur de l'Évangile. Adoption, the heart of the gospel. M. Piper a lui-même adopté. Dans l'église de M. Piper, il y a 80 familles qui ont adopté. L'adoption à cette église, dans cette église-là, c'est vraiment une culture d'adoption. Et M. Piper dit que le fondement le plus profond et le plus fort de l'adoption ne se trouve pas dans l'acte d'adopter des enfants par des parents, mais dans le fait que Dieu nous a adoptés. Et cet acte est le cœur de l'Évangile, nous dit Piper. Et puis, on ne peut qu'être d'accord avec Piper lorsqu'on lit Galates 4, 4 et 5, mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Dieu a envoyé Jésus sur terre avec d'une manière précise, avec un but précis, nous racheter. Ou on pourrait le dire d'une autre manière, nous adopter. Et puis, c'est conforme au texte qu'on vient de lire. Et puis, c'est très intéressant parce que j'ai grandi dans ma jeunesse en me disant qu'on doit naître de nouveau. Il doit avoir une nouvelle naissance. Et puis, on dirait que Dieu ici va introduire, que Paul, selon l'inspiration, va introduire un nouveau concept, celui-là d'être adopté pour expliquer comment Jésus nous a sauvés. Il aurait facilement pu ne pas parler d'adoption, mais de continuer à parler de nouvelle naissance, pour que tous ces enfants soient décrits comme des enfants naturels. Dans Jean 1, au verset 12 à 13, on lit, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Mais Dieu a choisi de parler de nous tel qu'un adopté. En plus d'être des enfants par la nouvelle naissance. Et puis, ça, c'est le fondement primordial entre un enfant et des parents. Un enfant, entre l'adoption d'un enfant par des parents. Et puis, Piper relève 8 similitudes entre l'adoption des humains par Dieu, des enfants. Excusez-moi, Piper, je recommence ça. Piper relève 7 similitudes entre l'adoption de nous par Dieu et l'adoption d'enfants par des parents. Je vais prendre une autre gorgée d'eau. Excusez-moi. Ma prière ce matin est que si vous avez adopté ou si vous êtes engagé à aider des familles à adopter, ou si vous vous questionnez sur l'adoption, ma prière est que Dieu va utiliser ces comparaisons pour augmenter votre conviction que Dieu est impliqué, investi et surtout glorifié par l'adoption. Il a lui-même adopté. Il connaît les coûts, les enjeux, les tristesses et les joies. Et il nous soutient tout au long du chemin jusqu'à la fin. L'adoption était pour Dieu et est pour nous très coûteux. Voilà la première comparaison. Dans Galates 4, au verset 4 et 5, « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. » Racheter. Racheter, c'est un verbe transitif. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. Racheter peut être défini comme acheter de nouveau. Se libérer d'une obligation en échange d'argent. Faire oublier ses fautes. Compenser. Racheter, c'est obtenir la libération en payant un prix. Quel était le prix que Dieu a payé pour notre libération? En fait, une autre façon de le dire, tout en respectant le texte, quel était le prix de notre adoption? Dans Galates 3, au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « tout homme pendu au bois est maudit ». Dans Éphésiens 1, au verset 7, « en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce ». Il va sans dire que le coût de notre salut est indescriptible en mots. Il a coûté à Jésus son sang, mais bien plus encore. Et nous n'avons pas le temps d'approfondir cela, mais juste de réaliser le coût de notre adoption. Ça nous met en perspective le coût d'une adoption sur terre. Il y a des coûts énormes à l'adoption d'enfants, c'est sûr. Certains sont d'ordre financier. Pour plusieurs, comme pour notre famille, ça l'a impliqué de faire un emprunt. Une adoption coûte entre 20 et 35 000 $. Par contre, le gouvernement va rembourser à la famille adoptive jusqu'à 12 000 $. Et ça peut prendre jusqu'à un an après l'adoption. Alors, la plupart des familles, selon mon expérience, font un emprunt pour adopter. Aux coûts financiers s'ajoutent des coûts émotionnels. Il y a aussi des grandes frustrations. Pour moi, très tôt dans le processus, ma grande frustration, ça a été d'aller au poste de police, faire mes antécédents judiciaux, judiciaires, merci, pour démontrer au gouvernement du Honduras qu'on était des honnêtes citoyens. Et puis, ça, c'est seulement valide 6 mois. Et puis, une adoption, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Et puis, chaque papier qu'on envoie là-bas doit être traduit et notarié. Alors, ça coûtait proche de 300 $ envoyer ces fameux papiers. Et puis, on savait bel et bien que dans 6 mois, notre adoption ne serait pas complétée, qu'il faudrait recommencer. Alors, je leur ai dit, à l'agence d'adoption, faites juste leur dire que vous avez vu les documents, qu'on est des honnêtes citoyens, et puis, on va, lorsqu'on sera prêt, puis on va savoir, on va l'envoyer les papiers notariés, traduits, tout ça, comme ça on va diminuer les coûts. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Le dossier n'est pas complet, ça n'avance pas. Alors, il y a des rigueurs, il y a des choses à faire, ça marche selon une cédule bien précise. Et puis, ça m'a un petit peu frustré. Et puis, je me suis dit, c'est quoi ça? 300 $ pour l'adoption de notre fils. Ça, c'est rien dans la balance. Une autre frustration que j'ai eue, on avait tous les documents en main. On n'en croyait pas. On ne le croyait pas parce qu'il était rendu 4 heures et puis finalement, on a un appel de notre avocate. Elle nous dit, il y a un avion qui part pour le Guatemala. Vous pourriez être à l'ambassade canadienne pour 5 heures, vite, appelle l'agence de voyage, je fais faire les billets, on se dépêche en catastrophe, on arrive à l'aéroport, et puis là la madame, elle nous dit, là, il y a un problème, je dis, ah oui, mais c'est quoi, j'ai 3 billets, on est 3, tout ça, elle dit, bien, vous avez les 3 dernières places du vol, il y a 1 billet pour votre femme, il y a 2 billets pour vous, et il n'y a aucun billet pour votre fils. Voyons donc. Alors là, on appelle l'agence de voyage, puis là, à l'agence de voyage, la dame a dit, « Ben oui, vous m'avez demandé 2 billets pour vous. » J'ai dit, « Ben voyons donc, je n'ai pas demandé 2 billets pour moi. » C'est une erreur de la dame. Elle a imprimé 2 billets au nom de mon fils. Alors là, elle dit, « Bonne nouvelle, il y a un siège en première classe qui vient de se libérer. » Alors là, j'ai dit, ouais, mais on est trois, on a trois billets. Ben non, ils ne sont pas au bon nom, il n'y a rien à faire. Mais là, la frustration. On a acheté un quatrième billet en première classe pour pouvoir se rendre au Guatemala. Les frustrations. Il y a des frustrations dans le processus d'adopter des enfants. Il y a des coûts en termes de temps. Il y a des coûts en effort. Et ça, pour le reste de notre vie. On ne cesse jamais d'être un parent jusqu'à notre mort. Et ça va nous demander des efforts tout au long de notre vie. Mais il y a quelque chose de très profond et bien d'assumer ce coût pour la vie d'un enfant. Une grande joie pour moi et pour Maude est que suite à l'adoption de José Mateo, plusieurs nous ont dit, moi aussi, je pense à adopter. Et puis, éventuellement, on a su que la famille parent allait eux aussi adopter au Honduras. Et non seulement ça, ils vont adopter un petit garçon qui est dans la même famille. D'accueil, merci. J'ai eu un blanc. Alors, qui est dans la même famille d'accueil que José était. Alors, depuis qu'ils ont 6 jours de vie, qu'ils sont dans cette famille-là, qui grandissent ensemble. Alors, par la providence de Dieu, ce petit garçon va se retrouver non seulement à Gatineau, mais dans notre église. Alors, ça va être un moment extrêmement heureux pour José de retrouver ce petit garçon. Pour Maude et pour moi, c'est les Godfrey qui nous ont catapultés dans le monde de l'adoption selon Christ. Par leur témoignage de vie, par leurs nombreuses prières, on a été convaincus, nous aussi, de faire le saut et d'aller adopter un enfant. Il est intéressant de lire un petit peu un résumé de ce que ça fait une adoption sur un site qui s'appelle Abba Fund. C'est un site où ils distribuent, ils prêtent de l'argent sans intérêt aux familles chrétiennes qui veulent adopter. Alors, une adoption interpelle une dizaine de familles proches de la famille qui adopte. Ces 10 familles proches-là vont entourer la famille qui adopte, vont prier pour eux, vont faire des levées de fonds, vont les accueillir lorsqu'ils reviennent à la maison. Ils vont préparer des repas. Et puis, ils vont faire partie de la sphère immédiate d'amis de l'enfant adopté. Alors, c'est un groupe de support très proche de la famille adoptive. La présence d'une famille adoptive dans une communauté d'église typique va toucher 150 personnes ou plus. Ces 150 personnes en moyenne observent la famille vivre l'appel de Dieu pour prendre soin des orphelins et interagissent avec eux dans le cadre de la vie d'Église. Et si seulement 10 de ces personnes sont assez touchées par Dieu pour prendre des mesures pour aider à prendre soin d'un orphelin, ou même d'adopter, la vie de 15 orphelins va être améliorée. Alors, à travers l'adoption d'une famille, c'est les Godfrey, c'est les premiers qu'on a su, on connaît plusieurs personnes qu'ils ont, eux, adopté, parce qu'ils ont vu comment Dieu les a appelés à adopter, et puis ils ont réalisé que Dieu aussi les appelait à adopter. L'adoption est radicalement opposée aux valeurs de notre société. Les enfants sont souvent mis de côté dans notre société. On rejette les contraintes des enfants afin de maximiser nos libertés et notre confort. Et ça, même au prix de l'avortement. Les enfants dérangent. Ils sont contraignants. L'adoption, c'est volontairement payer le prix, malgré mille et une embûches, pour avoir ce que la société ne veut pas. C'est pourquoi, quand nous adoptons, Christ brille. Christ brille plus visiblement. Il doit être dit que le coût que Dieu... Il doit être dit que le coût que Dieu a payé pour notre adoption est infiniment supérieur à n'importe quel coût que nous pouvons assumer pour l'adoption d'un enfant. Et j'ai trouvé beaucoup de réconfort dans cette vérité. Mon adoption a coûté à Dieu bien plus qu'il m'est capable d'imaginer. La deuxième comparaison, l'adoption pour Dieu est pour nous aussi, concerne le statut juridique de l'enfant. Au verset 4 de Galates, chapitre 4, « Mais lorsque le moment était vraiment venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, au verset 5, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. » Au verset 6, « Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». La justice de Dieu exige que nous soyons punis et exclus de sa présence à cause de notre péché. Ça, c'est la loi. La justice est nécessaire et le châtiment est exigé. Dieu a dû satisfaire la justice et la loi pour adopter des pécheurs dans sa famille. Il a accompli cela par la vie, la mort et la résurrection de son fils Jésus. Cela signifie que nous avons le statut de fils légitime, et puis ça précède l'esprit qui entre dans notre cœur et nous transforme à l'image de notre nouvelle famille. Ça dit bien au verset 6 que Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». C'est également le cas avec nos enfants adoptés. Il y a des lois à satisfaire. Il y a un statut juridique, il y a des actes juridiques qui précèdent le sentiment d'appartenance à la famille. Vous savez, c'était comique pour moi de réaliser ça. On venait d'arriver à Gatineau. On est dans l'entrée, en avant de chez nous, et puis on mange une collation. Maude est allée chercher je ne sais plus trop quoi. Et José développe l'emballage et il le laisse aller au vent comme ça. Et puis, ça m'a tellement fait réagir. Mais voyons donc, José, qu'est-ce que tu fais? Mais les enfants d'Amérique latine qui grandissent dans les milieux pauvres, c'est tout naturel pour eux. Il n'y a pas personne qui leur a enseigné de prendre le wrapper, l'emballage, et le mettre aux poubelles. Et puis lui, bien qu'il est notre fils légitime, il n'agit pas comme mes deux autres enfants. Il n'a pas encore les marques de la famille. Vous savez, dans notre famille, on écoute le hockey, pas parce qu'on aime ça, mais parce qu'on veut faire plaisir à Zachary, mon plus vieux. Alors José, il ne connaissait rien au hockey, mais il a bien compris que nous autres, on écoute le hockey pour faire plaisir à Zach. Tout en famille. Ça ne dure pas très longtemps, là, mais... Dans notre famille, on va à l'église. On prie avant de manger, en se couchant. Dans notre famille, on se brosse les dents. Ça, c'était nouveau pour José. S'il y a une chose qu'il haït, qu'il n'aimait pas, c'est bien se brosser les dents. Légalement, il était notre enfant, même s'il ne connaissait pas ou ne faisait pas toutes les choses que nous on fait dans notre famille. Et c'est la même chose pour nous. On est adopté dans la famille de Dieu, mais on n'est pas encore sanctifié pour être complètement à la ressemblance de Christ. Mais c'est une transformation qui est en train d'avoir lieu, et puis on avance dans la ressemblance de Christ, dans la marque de la famille. Troisième comparaison, Dieu a béni l'adoption avec l'esprit de son Fils. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Et puis ça, pour moi, ça a été extrêmement bénissant de réaliser ça. Je vous relis le verset. « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». C'était Galates 4 au verset 6. J'aimerais maintenant lire dans Romains 8 au verset 15. On retrouve sensiblement la même chose. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque Dieu nous adopte, nous ne sommes plus des étrangers. Il ne nous laisse pas sans sentiment d'acceptation. Dieu nous entoure de son amour. Lorsqu'on est adopté, on est pleinement accepté. Au contraire, il déverse son esprit dans nos cœurs pour qu'on fasse l'expérience d'être adopté dans sa famille. Il nous donne son esprit pour que son esprit parle à notre esprit pour nous rassurer qu'on est dans sa famille. Et puis, ce qui est fascinant à remarquer dans les deux textes qu'on a lus, le mot « Abba ». Les deux lettres de Paul, Galates et Romains, sont écrits en grec. Et puis, Paul va écrire une lettre en grec et puis il va laisser un mot en araméen sans le traduire. Et puis certains disent que c'est pour les apôtres un vestige précieux de la voix même de Jésus dans la langue qu'il parlait. Dans Marc au chapitre 14 au verset 36, Jésus est dans le jardin de Gethsémani et il dit « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus parle à son Père et il l'appelle Abba. Et Paul veut faire ressortir la proximité de Jésus avec son Père. C'est comme s'il parlait à Dieu et il disait « Papa, Jésus savait ce qui s'en venait. Jésus savait. Et il parle à son Père. Et il est très proche. Et Paul nous dit que nous avons ce même privilège d'appeler Dieu Papa, comme un bon Père. Toujours là, car nous avons des difficultés. Il nous donne cet esprit qui nous donne une relation spéciale avec Dieu. Dieu nous donne l'esprit même de son Fils et nous fait ressentir l'appartenance à la famille de Dieu. Dans nos familles, Dieu travaille à éveiller chez nos enfants adoptés de l'affection pour leurs parents, leur famille, un esprit d'appartenance. Les enfants adoptés savent qu'ils font partie de la famille. Pas parce qu'on a un document légal qui dit que l'enfant a deux parents, puis c'est Mathieu Fortin, Maud Champagne, José Mathéo, l'enfant. C'est pas à cause d'un certificat de naissance. Et puis le certificat de naissance à José dit ça, qu'il y a deux parents, puis c'est Maud et moi. Et puis José ne demande pas à le voir pour s'assurer qu'il est vraiment dans notre famille. Il a un sentiment d'appartenance. Et c'est drôle parce que je pensais à, au début, les enfants adoptés, souvent, ils vont rejeter un parent. Ils vont s'attacher à un parent plus, puis l'autre parent, ils vont comme le rejeter. José, il a grandi dans un milieu où il y avait beaucoup, beaucoup de femmes. Il y a une certaine crainte des hommes. Alors, au début, il m'a rejeté. Il disait, « Maud, c'est ma maman, mais toi, tu n'es pas mon papa. » Et puis, quand on a enfin reçu le certificat de naissance, il dit, « José, José, viens voir, viens voir. » Là, je lui montre le certificat de naissance. « Regarde, c'est écrit, Maud Champagne, ta maman. » C'est écrit, « Mathieu Fortin, ton papa. » Il dit, « Non. » « Non, pas mon papa. » Ça ne change rien. Ces documents légaux-là ne changent rien. Il sait qu'il fait partie de la famille parce qu'il a un sentiment d'appartenance. Et maintenant, quand j'arrive de mes voyages d'affaires en Abitibi, quand j'arrive, j'ouvre la porte, je laisse tomber ma valise, je fais un peu de bruit pour qu'on sache que je suis là. Et puis là, les enfants courent. D'habitude, c'est Elia qui est toujours là la première. Ensuite, c'est Zacharie. Puis José est toujours là aussi. Et puis là, ils me font un group hug. Et puis là, José, il dit, « Papa, papa! » T'es arrivé, je suis content. Ça, bien sûr, si ça arrive quand il ne jouait pas au DS, là, quand il joue au Nintendo DS. Là. Béni soit Dieu qui nous a donné à la fois le statut juridique d'enfant et l'esprit même de son Fils que nous puissions dire avec une profonde conviction, « Abba, Père ». La quatrième, l'adoption nous a apporté et apporte à nos enfants les droits d'être héritiers du Père. Notez que Galates dit que nous sommes les héritiers par Christ. Galates 4, 7, il dit, « Ainsi, tu n'es pas esclave, mais fils, tu es et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. » Dans Romains, ça dit que nous sommes des héritiers de Dieu. Romains 8, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Dans le contexte de Galates, nous sommes héritiers par Christ. Et puis, c'est le contexte de la promesse d'Abraham. Dieu, dans Romains 4, au verset 13, « En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse... » On parle de la promesse... excusez-moi, là. J'essaie d'avancer plus vite. Je vois que le temps avance vite, puis... Je me mêle un petit peu, je saute des choses. Le contexte, c'est la promesse d'Abraham. Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter. Et nous sommes les héritiers avec Abraham de son héritage, à savoir le monde. Alors, dans Romains 4, au verset 13, « En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. » la foi en Christ qui nous justifie. Mais dans Romains 8, au verset 17, le contexte est que avec le Christ, nous sommes héritiers de tout ce que Dieu a, notamment tout. Héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. On va sauter malheureusement quelques petites choses ici. Je dois vous dire que le jour où Maud et moi, on va décéder, on ne sera plus de ce monde. L'exécuteur testamentaire ne va pas traiter José comme ayant un statut d'adopté moindre que mes enfants biologiques. Ils sont tous héritiers. Et puis, c'est la même chose. Nous sommes appelés les héritiers de Dieu. Nous sommes appelés co-héritiers avec Christ. Nous sommes dans la famille de Dieu. La cinquième comparaison, l'adoption était pour Dieu et est pour nous planifiée d'avance. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire et la grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Éphésiens 1, versets 4 et 6. L'adoption n'est pas le plan B de Dieu. Il nous a prédestinés à l'adoption avant la création du monde. Le plan A n'était pas d'avoir beaucoup d'enfants de manière naturelle qui ne pêcheront pas, qui n'auront pas besoin d'être rachetés. Le plan A a toujours été, un, la création, deux, la chute de l'humanité, trois, la rédemption, quatre, l'adoption. Afin que l'ensemble de la gloire de Dieu et de la miséricorde et grâce soit connue par ses enfants adoptés. L'adoption était prévue depuis le début. Dans nos vies, il y a quelque chose d'unique et précieux dans le fait d'avoir des enfants par la naissance. C'est un bon plan. Il y a aussi quelque chose de différent, mais aussi particulièrement précieux à adopter des enfants. Votre choix d'adopter des enfants peut être séquentiellement en deuxième. Mais ne pas être votre choix secondaire. Il peut être aussi précieux et important que d'avoir des enfants par la naissance. L'adoption a pour Dieu est souvent pour ceux qui adoptent prend racine dans une très mauvaise situation. Nous étions par nature des enfants de colère, comme le reste de l'humanité, dans Éphésiens 2, au verset 3. Dieu ne nous a pas trouvés tout mignons, tout cute, emmaillotés d'une belle couverture, dans un beau panier d'osier, sur le perron d'une orphelinat. Dieu ne nous a pas trouvés comme ça. Il ne nous a pas trouvés irrésistiblement mignons. Il nous a trouvés laids et rebelles. Nous n'étions pas attrayants pour Dieu. En plus, de par sa justice, Dieu lui-même était en colère contre nous. Il est le péché et la rébellion. Nous étions alors doublement des enfants de colère. Voilà ce que Dieu a adopté. C'est ça que Dieu a adopté. Couvert de péché et rebelle. La distance entre ce que nous sommes et ce que Dieu est infiniment plus grande que la distance qui peut séparer des parents avec des enfants qui aimeraient adopter. Les adoptions ne viennent pas seulement de bonnes situations. en bonne santé. Parfois, c'est des enfants malades, négligés, laissés pour compte. Parfois, c'est des enfants rebelles ou difficiles qui portent les séquelles de leur vie passée. Septième point, l'adoption veut dire pour tous les chrétiens et pour tous les parents chrétiens que nous subissons maintenant des souffrances et nous allons expérimenter la gloire plus tard. Romains 8, 22, « Or nous savons que jusqu'à maintenant, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. » Au verset 23, « Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. » Je ne sais pas si vous avez bien compris, ça dit « en attendant l'adoption ». Oui, nous sommes déjà adoptés. Quand Christ est mort pour nous, le prix a été payé. Et quand nous lui faisons confiance, nous sommes légalement et de manière permanente dans la famille de Dieu. Dieu ne laisse aucun de ses enfants gémir et souffrir. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts et lui a donné un nouveau corps. Et il promet à tous ses enfants adopter un nouveau corps à la résurrection. Il n'y a plus d'handicap et plus de gémissement, plus de souffrance. Voilà ce qui va compléter notre adoption au jour de la résurrection, notre nouveau corps. En terminant, j'aimerais vous dire qu'il y a 2 ans, j'ai décidé de faire confiance à Dieu pour l'adoption d'un enfant handicapé. Et aujourd'hui, les bénédictions dépassent déjà largement le sacrifice. Dieu accomplit de grandes choses. Gloire à Dieu.